RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, en direct de Caen ce soir pour l'After Tour, à l'issue de cette cinquième étape du Tour de France, le premier chrono de cette grande boucle et donc le succès incroyable de Remco Evenepoel qui est décidément imbattable dans cet exercice. Remco, champion du monde, champion olympique et vainqueur aujourd'hui dans les grandes largeurs, même s'il ne s'impose qu'avec 17 secondes d'avance sur un autre grand champion, un certain Tadej Pogacar qui ce soir porte le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot vert et s'impose désormais comme le grandissime favori de ce Tour de France. Le Tour est-il déjà joué à l'issue de cette cinquième étape? Eh bien, on se posera la question dans quelques instants avec toute l'équipe de l'After. On va aussi revenir sur la performance majeure de nos Français en chrono. Une fois n'est pas coutume. On s'est plaint pendant des années de ne pas avoir de Français capables de jouer dans le top 5 sur les grands chronos du Tour de France. Eh bien, aujourd'hui, on en a deux dans le top 5. Le champion de France et son vice-champion, Armirail 4e, Vauclin 5e, Vauclin qui ce soir monte sur le podium du Tour de France. Et puis on s'intéressera également à la contre-performance de Jonas Vingegaard et toute la formation Visma Lease a Bike qui est passée complètement à côté de son sujet aujourd'hui. Ils sont venus, ils sont tous là, la bande de l'After, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, Jérôme Pinault.
Présent chef.
Ouvert votre micro, monsieur Coppel.
Il est ouvert.
Maintenant il est ouvert.
Il est ouvert, j'ai pas fait d'erreur. Rarement des erreurs.
Nous avons donc vécu le premier grand rendez-vous de ce tour. On s'attendait peut-être à un match serré entre Vingegaard et Pogacar. Il n'y a pas eu de match aujourd'hui. Vingegaard s'est complètement écroulé face à Pogacar. En revanche, il y en a un qui a épaté la galerie. Mais l'épate-t-il encore cette galerie à force de tout remporter contre la montre? Remco Evenepoel a montré encore une fois qu'il était bien le maître du temps, le maître du chrono. C'était tout à l'heure dans l'intégral tour sur RMC.
On sait que Bruno Armirail roule très vite. Et ça y est, c'est parti pour Bruno Armirail.
C'est pas parti pour la moto.
Ouais, on avait un doute sur la capacité de Jérôme Coppel. Mais je pense qu'il a peut-être chuté dans le premier virage. C'est un peu le souci. 3, 2, 1. Et c'est parti pour Remco Evenepoel avec son magnifique maillot de champion du monde sur le chrono. Il porte ce maillot et c'est parti pour un gros défi pour Remco Evenepoel. Aller chercher donc 58 secondes.
Jonas Vingegaard est au départ, le Danois double vainqueur du Tour qui s'élance. Pierre-Yves.
Lui avec un plateau de 64 semble-t-il et c'est parti pour Jonas Vingegaard.
Ils se sont tous élancés. Le dernier à être parti, Mathieu Van Der Poel, qui est parti à 17h pile. On a déjà des indications chronométriques et des indications qui nous font croire à un grand, très grand Pogacar aujourd'hui.
Remco Evenepoel qui va passer la ligne dans quelques instants. Remco Evenepoel après 33 km qui va prendre le meilleur temps. À Eduardo a fini top avec 33 secondes de mieux. 36 minutes et 42 secondes. 54 km/h exactement. Le quatrième temps actuellement pour Kevin Vauclin. Quatrième temps, bon chrono pour Kevin Vauclin. 50 secondes, effectivement. Voilà. Belle performance de la part du Normand.
J'ai fait un chrono, je pense, qui était pas mal. J'ai même pas les mots.
12e position, Jonas Vingegaard, 1 minute 21, loin de Remco Evenepoel à 52 km/h.
Il va être à moins de 20 secondes, donc il a repris quelques secondes effectivement sur le final. Deuxième de l'étape avec un retard de 16 secondes pour Tadej Pogacar, qui va donc revêtir le maillot jaune tout à l'heure. Et depuis, effectivement, Tadej Pogacar a revêtu le maillot jaune, tout comme il a revêtu le maillot vert, le maillot du meilleur sprinter, et le maillot à pois de meilleur grimpeur qu'il avait déjà sur les épaules hier soir. Pogacar qui écrase la concurrence, même si, évidemment, aujourd'hui, il ne s'est pas imposé, puisque c'est donc Remco Evenepoel, le champion du monde et champion olympique, qui remporte cette étape. Pierre-Yves, on va rappeler les résultats de l'étape et du classement général, parce qu'il y a évidemment du changement ce soir.
C'est donc Remco Evenepoel qui remporte cette étape. Ce contre-la-montre à Caen de 33 km devant Tadej Pogacar à 16 secondes. Eduardo a fini longtemps premier pendant cette étape, termine à 33 secondes. Et puis on a deux Français derrière, Bruno Armirail, 4e à 35 secondes, et Kevin Vauclin qui est 5e à 49 secondes. Lipovic, Romeo, Almeida, Plap et Castrillo terminent le classement du top 10. Et puis derrière, on s'intéresse quand même à la 12e place, Primoz Roglic à 1 minute 19 et Jonas Vingegaard 13e à 1 minute 21. Au classement général, c'est donc Tadej Pogacar qui reprend ce maillot jaune. Remco Evenepoel est 2e à 42 secondes, Kevin Vauclin 3e à 59 secondes, Jonas Vingegaard compte un débours d'1 minute 13 à la 4e place, suivent Jorgensen, Van Der Poel, Almeida, Roglic, Lipovits, Skelmose pour le top 10. L'autre Français qui suit, c'est Aurélien Paré-Peintre à la 12e place. Il est à 3 minutes 22. Il est dans ce top 20 et il n'y a pas d'autres Français d'ailleurs dans ce top 20. Donc Aurélien Paré-Peintre et Kevin Vauclin surtout 3e.
Exactement. Alors on va revenir évidemment sur la performance de Kevin Vauclin, mais à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par celle de Remco Evenepoel qui était équipé aujourd'hui de son casque de champion olympique de chrono, casque doré, de son maillot et de sa combinaison de champion du monde du chrono avec l'arc-en-ciel et qui a évidemment écrasé la concurrence. Il est vraiment le maître du chrono, Jérôme. On n'en doutait pas vraiment.
Exactement.
Mais il a, après un début de tour un peu timide de la part de Remco, on aurait pu se dire, bon, ben, va-t-il vraiment encore une fois écraser tout le monde? Ben, ça a été le cas.
Ben, c'est vrai qu'on avait des doutes, hein, surtout sur la première étape où il se fait piéger. On s'est dit, ok, il n'est peut-être pas vraiment dans son tour. Et puis, au fur et à mesure des étapes, on le voyait de mieux en mieux, de plus en plus à l'avant du peloton. Il faisait beaucoup moins d'erreurs. Et aujourd'hui, c'était sa course, son étape. Ça allait être son heure de vérité, finalement, à lui. Et puis, il part toujours à l'heure. Il arrive toujours devant les autres. Donc, ça ne change pas pour Remco Evenepoel. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir le suivre sur la moto. Enfin, il n'y a rien acheté hein, chez Remco Evenepoel en chrono. Dire le casque est parfait. Alors oui, c'est très beau, mais ça va surtout très vite. C'est surtout très efficace. La position est parfaite. Il n'y a pas d'erreur de braquet. Il n'y a pas d'erreur de trajectoire. La gestion, pourquoi il est plus fort que les autres? Parce qu'il sait gérer son chrono beaucoup mieux que les autres. Oui, il a plus de force. Il a du très bon matériel. Jérôme nous en a fait la pub dans les grandes largeurs. Mais surtout, la gestion. Sa gestion, elle était incroyable. Vous avez dit, il est parti très vite. Bien sûr, sur un chrono, on est bien obligé de partir vite, mais il était derrière Plap sur les premiers intermédiaires quand même, donc on aurait presque pu se poser des questions, mais pour avoir fait plusieurs tours sur la moto, on avait tout de suite dit que c'était vraiment sur la fin du parcours qu'on allait pouvoir faire la différence, et à ce petit jeu-là, Remco Evenepoel, il n'a pas d'égal là-dessus, et c'est comme ça qu'on reconnaît des vrais spécialistes de chrono, c'est qu'ils gèrent souvent de la même manière, et Remco Evenepoel, il passe jamais, quasiment jamais, au travers d'un chrono qui lui convient. Ça sera peut-être pas tout à fait pareil,
oui,
sur le prochain chrono.
Voilà, le chrono aujourd'hui, c'était quasiment tout plat. Lorsque ça grimpe, c'est peut-être un peu moins son truc. Alors, on dit souvent que Remco Evenepoel est assez maladroit lorsqu'il roule en peloton parce qu'il a débuté la carrière de coureur cycliste assez tard, après avoir été d'abord footballeur. En revanche, Jérôme Pinault, la science du chrono, il l'a appris très vite. Hein, on peut pas lui enlever. C'est vraiment un garçon impeccable, comme disait Jérôme. Il est magnifiquement posé sur son vélo, fait pas une erreur. Il a très vite appris à servir de ce chronomètre.
Il y a une large différence entre se comporter en peloton et être un bon pilote. Là, il est pilote et il est tout seul sur la route. Son problème, c'est de vivre dans un groupe avec les coudes serrés et peu d'espace vital dans le peloton. Et le placement, prendre des risques pour se placer. Mais on l'a vu aussi lors de ses nombreux solos, parce que Remco Evenepoel, on parle beaucoup des Tadej Pogacar, mais Remco est aussi habitué à ses solos. Il attaque de très loin et il roule très vite tout seul devant. Et dans les trajectoires, comme il l'a montré aujourd'hui, il est ultra propre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à acheter, comme dit Jérôme. Je ne peux pas dire aujourd'hui, en débriefant, et il le fera avec son équipe, où il a pu perdre une ou deux secondes. Dans le final, c'était très technique.
Même un final un peu sinueux, il s'en est bien sorti.
Il est juste pas habile dans le peloton, mais ça s'apprend à l'école de cyclisme, ça s'apprend dans les pelotons des minimes, des cadets, des juniors. Alors des minimes, des cadets, des écoles de cyclisme, lui il était en équipe nationale et capitaine de l'équipe de Belgique.
Les Diables Rouges juniors.
Ça, il a pas la base de ça. Mais très vite, quand il est arrivé chez les juniors, il a fait preuve de tout son talent, et notamment dans le contre-la-montre. Et après, les courses en ligne, moi je l'ai vu gagner son titre de champion du monde à Innsbruck chez les juniors, il est chuté premier tour, il a passé le peloton les uns après les autres, il est fini tout seul avec 3 minutes d'avance et il a fait 60 km tout seul. Donc évidemment que chez les juniors, il n'a pas non plus appris à vivre en peloton. Finalement, il est arrivé que chez les pros pour apprendre à vivre dans un peloton.
Mais dans le peloton, en fait, le problème de Remco Evenepoel et de ceux qui chutent souvent, alors il y en a, c'est pas toujours leur faute, mais c'est qu'ils surréagissent, en fait. Il y a un petit coup de patin, eux, ils vont en mettre un gros, ils vont partir à la faute. En chrono, il repère le chrono, il a dû le faire des dizaines et des dizaines de fois, il sait exactement dans quel virage faut mettre un petit coup de frein ou faut enlever les mains des prolongateurs, etc. Dans le peloton, il y a tout qui est amplifié. Si vous êtes le premier du peloton qui met un petit coup de frein, c'est la vague derrière. Et le dernier, lui, fait un dérapage et il est à deux doigts de tomber. Et quand t'as pas l'habitude de, quand t'as pas fait, comme dit Gégé, l'école de cyclisme, etc., bah souvent tu surréagis et c'est là où tu pars à la faute.
Et sur le repérage et le travail qui est effectué par les spécialistes, les grands spécialistes du chrono, et Remco en est un, on pourra voir sur les images, et on l'a vu tout à l'heure, c'était impressionnant, c'est que Remco fait partie de ces coureurs qui, sur les parties rectilignes et les parties avec enfilade, ne regardent pas la route. C'est-à-dire que pour être le plus aéro possible, il baisse la tête et il ne regarde pas la route. Il jette un œil de temps en temps, mais pour être le plus aéro possible, pendant des centaines de mètres parfois,
il ne regarde pas la ligne blanche.
Leur trajectoire, mais ils sont tellement dans la course, ils ont tellement bien repéré qu'ils ne regardent pas la route. J'ai eu l'occasion de travailler, non pas avec un immense spécialiste, mais avec un coureur qui s'appelle Miguel Heindemann, qui est l'un des meilleurs coureurs allemands en contre-la-montre. Il ne regardait pas la route. Il fallait le guider sur les trajectoires, enfilade évidemment, sur les virages, etc. Il est prévenu. Mais sur les longs enchaînements et sur les longues lignes droites qu'il y avait aujourd'hui sur le parcours GG, tu pourras confirmer, il ne regarde pas la route.
C'est comme un pilote de rallye, il a son copilote qui est dans la voiture derrière et qui lui dit virage 50 km/h, virage droit.
Bien sûr, mais il y a ça. Alors après, chaque coureur demande ses propres informations. Les directeurs sportifs ne donnent pas forcément toujours les mêmes informations à tous les coureurs. Ça dépend. Certains ne veulent pas être prévenus des virages, etc., ou des temps intermédiaires, tout ça. Moi, j'ai fait mon premier championnat du monde junior chrono en 2004. On faisait déjà de la visualisation. Donc, on devait tracer sur un parcours, sur une feuille de papier, le parcours, mettre les points importants, les bouches d'égout, etc. Et après, on avait un préparateur mental qui nous mettait un peu en sorte d'hypnose et on se faisait notre chrono idéal, comme si on était au départ de la course. Et ça, l'idée, c'était de préparer le cerveau à se dire « Ok, demain, ça va être dur, mais on trompe un peu le cerveau, ça va être dur, on l'a déjà fait, on pourra aller plus loin dans la douleur. » Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des choses comme ça.
Ça
te plaît que si t'es spécialiste du chrono.
Toi qui viens du monde du ski, ça ressemble un peu à la visualisation que font les descendeurs avant une descente, où on les voit faire les gestes à droite, à gauche,
et du ski alpin, bien sûr que c'est pas le même sport, mais ça reste un sport de trajectoire. Et oui, il faut être fort physiquement. Si c'est un grand bout droit, il faut être fort physiquement. Mais si t'as des enfilades, des courbes, etc., des virages serrés, tu peux gagner vraiment énormément de temps dans les virages. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui de suivre pas mal de coureurs. Il y en a dans les virages qui remettaient les mains au guidon, qui enlevaient les mains des prolongateurs. Il n'y a pas un spécialiste qui enlevait les mains des prolongateurs dans les virages où ça le permettait, alors qu'ils arrivaient encore plus vite. Donc c'est signe de la préparation suivant les objectifs, sont pas du tout les mêmes, bien sûr.
Ouais, cette visualisation est importante. Moi, ça me rappelle plutôt l'équipe de Jamaïque dans Rasta Rocket pour le Bosse.
Tu parles pour ta coupe de cheveux, tu embrasses ton œuf.
100K,
t'es mort. Yeah man.
Yeah man. Ben, on va écouter Remco Evenepoel, qui est donc le roi du chrono et qui s'est donc imposé une nouvelle fois. Ensuite, on verra un peu quel est son palmarès en chronomètre avec Pierre-Yves. Mais d'abord, écoutons le vainqueur du jour et donc désormais deuxième au classement général, le champion du monde et champion olympique Remco Evenepoel.
Oui, bien sûr, je pense qu'il faut toujours être motivé, surtout avant les chronos. Je pense que avoir les ambitions, ça me donne la motivation pour aller le plus vite possible. Et je savais loin de la tête que ça allait être dur d'aller prendre le maillot jaune, mais j'ai juste poussé le maximum possible aujourd'hui. Et je sors avec une victoire d'étape, donc je suis hyper content avec les résultats, avec les sensations. Et c'est bien pour la suite. Ça pique, mais c'est clair que le passé, on peut plus le changer. C'est de ma faute, c'est de notre faute. Il faut l'accepter, il faut regarder vers l'avant. Mais c'est clair que c'est peut-être. C'est clair que je regrette un petit peu que je ne me suis pas battu pour la bordure sur l'étape de samedi. Mais je pense que pour Team, c'est la même chose. Donc. Après ça, je pense qu'on gagne deux étapes sur cinq, donc c'est plutôt pas mal pour l'équipe. Donc c'est clair qu'on a débuté dans ce Tour de France sur une manière très mauvaise, mais de plus en plus on commence à rentrer dans la course, on commence à faire des bons résultats, on est bien unis et c'est clair que pour le moment, pour l'équipe, c'est plutôt positif, plus positif que comme on a débuté le samedi passé.
Oui, effectivement. C'est vrai qu'on les avait quand même un peu assassinés à l'issue de la première journée, les coureurs de la formation Soudal Quick-Step. 4 jours plus tard, ils sont déjà 2 victoires d'étape, Jérôme.
Comme de Canin Calpessine. Et 3 victoires pour les Belges, Mesouf Pilou, ça fait un beau score quand même.
Ah oui, ils sont pas mal. Ils sont pas mal.
C'est-à-dire que c'est aussi significatif de la difficulté pour une équipe d'aller gagner une étape. C'est-à-dire qu'on en est à 5. Il y a déjà 2 équipes qui en ont gagné 2. Qu'il ne reste plus beaucoup de place pour les autres.
Après. Et puis l'autre équipe qu'on a gagné une, celle du AE, risque d'en gagner encore quelques-unes d'ici Paris. Donc bien sûr, il n'y a plus beaucoup de place pour les autres.
Alors, dans l'interview, Remco évoque justement cette journée de samedi, cette bordure qui lui a fait perdre 40 secondes, sans laquelle il serait ce soir maillot jaune. Hein. C'est vrai que ça pique, il le dit, ça pique. Ça.
Oui, alors après, la course aurait peut-être été différente, mais si on prend d'un point de vue purement mathématique, il a perdu 39 secondes sur la première étape. Ce soir, il est à 42 secondes de Tadej Pogacar, parce que Tadej a gagné, a pris des bonifs, etc. etc. Donc ça aurait pu être différent. Oui, mais oui, en tout cas, il avait au moins l'opportunité de porter le maillot jaune. Le soir de la première étape, je pense qu'il a compris, malgré ses déclarations d'hier, où il disait « je pense être capable de reprendre 58 secondes sur ce parcours », que je ne suis pas sûr qu'au fond de lui, il y croyait vraiment.
Sur Jonas, il a prouvé que
c'est le soir de la première étape, il savait que son rêve de porter le maillot jaune à l'issue du chrono s'était envolé.
Donc c'était du bluff hier quand il disait je vais reprendre le maillot jaune, 58 secondes, ça peut le faire.
Je pense que c'était du bluff. À mon avis, c'était du bluff. Je vois pas comment ce parcours-là, il se voyait reprendre.
Ou du boulard, comme dirait Jérôme.
C'est plus de 2 secondes au kilomètre à Tadej Pogacar. Ouais, alors soit il est resté sur ses impressions du Dauphiné en s'imaginant que Tadej Pogacar avait pas progressé entre le Dauphiné et le Tour de France en chrono, et là c'était peut-être jouable, mais tout le monde progresse entre le Dauphiné et le Tour.
Ouais,
peut-être pas Vingegaard.
Le petit coup de pression aussi, mettre la pression sur ses adversaires, je vais le faire et je peux vous battre, donc donnez tout et mettez tout et prenez tous les risques.
Ouais, parce que je vais tout casser.
C'est ça.
Ça sert à rien.
C'est sa méthode à lui, c'est pas la première fois qu'il fait des déclarations.
Tu crois que ça a fait vaciller Pogacar quand il a lu la déclaration?
Non, mais en fait, c'est peut-être une motivation personnelle aussi, tenir ce discours-là, l'entraîner.
C'est un ancien footballeur, ça ne m'étonnerait pas.
Ouais,
pourquoi pas, pourquoi pas.
Alors, Remco qui confirme donc qu'il est le roi du chrono. Pierre-Yves, tu t'es penché un peu sur le palmarès d'Evenepoel en matière de contre-la-montre, et c'est vrai que ça commence à devenir sérieux. Alors, il est loin des 20 succès en contre-la-montre sur le tour d'un certain Bernard Hinault, qui reste le maître des maîtres, mais
il y en a beaucoup moins aussi. Les chronos,
c'est vrai. Et ils sont moins longs qu'avant.
Il y en a moins. Mais c'est vrai qu'avec cette victoire à Caen, Remco remporte sa 64e victoire professionnelle. Et sur ces 64, il y a 21 contre la montre, quand même. Donc, un tiers, c'est dans cet exercice où il est spécialiste. C'est la 2e victoire sur le Tour de France après Solide Gevrey-Chambertin l'année dernière. Sur 9 confrontations avec Tadej Pogacar dans cet exercice, Remco s'est imposé 8 fois. Sa seule défaite a eu lieu l'an passé. On le disait tout à l'heure lors de la dernière étape du Tour entre Monaco et Nice, où le Belge avait terminé 3e derrière Poggi et Vingy. C'est d'ailleurs le seul jour où il s'est incliné également contre Vingegaard en 11 confrontations. Mais c'est un chrono qui est un peu particulier. Il n'y avait plus grand chose à aller chercher. Le champion belge est bien le roi de l'exercice, roi des Belges, puisqu'il a remporté les 3 derniers championnats auxquels il a participé, championnats nationaux. Roi du monde également, puisque Remco porte le maillot arc-en-ciel depuis 2 ans du champion de contre-la-montre.
Plus donc le titre de champion olympique, le double titre l'été dernier à Paris. Remco Evenepoel qui est donc remonté au 2e rang au classement général. L'écart avec Pogacar, il est de combien, Pierre-Yves?
Eh bien, je te redonne le classement général. Remco Evenepoel est à 42 secondes et Kevin Vauclin à 59.
42 secondes. Est-ce qu'il est désormais, on va parler d'Ingegaard dans quelques minutes, est-ce qu'il est désormais le premier adversaire de Pogacar sur ce Tour de France, si tant est qu'il est, que Pogacar ait encore des adversaires sur ce Tour?
Oui, ça c'est déjà la première chose. Je ne suis pas sûr que Tadej Pogacar ait un adversaire, même si Remco Evenepoel est ce soir 2e du classement général. Pour moi, ce n'est pas du tout l'adversaire de Tadej Pogacar. Je pense même que Vingegaard, si il n'explose pas mentalement, s'il ne pète pas dans la tête, il ira chercher presque sans trop de problèmes Remco Evenepoel dans la haute montagne. Pour moi, le principal adversaire de Tadej Pogacar, ça reste Jonas Vingegaard, même s'il a fait une contre-performance. Remco Evenepoel, il est bien, il a un coup d'avance. C'est ce qu'il avait dit au départ du Tour, qu'il espérait le soir du chrono avoir un coup d'avance sur Vingegaard et Tadej Pogacar. Il a déjà un coup d'avance sur Vingegaard, il a fait la moitié du chemin, mais j'ai du mal encore à le mettre comme l'adversaire numéro 1 du Slovène.
Mmh. Jérôme, pareil.
Bah ouais, pareil, parce que je ne vois pas Tadej Pogacar se méfier de Remco plus que cela dans la montagne. On l'a vu. On dit déjà qu'il y a un énorme écart avec Jonas Vingegaard. Alors imaginez avec Evenepoel, c'est un gouffre qu'il y a à chaque fois qu'il y a confrontation. Tadej Pogacar prend largement le dessus sur Remco Evenepoel. Je suis assez d'accord avec Jérôme, mais je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que Jonas Vingegaard va certainement, s'il n'explose pas dans la tête, ce qui peut arriver, parce que tu l'as dit Jérôme depuis ce départ de ce tour, on peut imaginer que si Vingegaard est encore subit encore une large défaite sur le tour, est-ce qu'il y reviendra? Déjà cela. Alors est-ce que même avant d'arriver dans les premiers massifs, il a quand même déjà un sacré débours? On a dit 1 minute et 13 secondes, c'est déjà énorme par rapport à son principal adversaire. Il imaginait peut-être même être au-dessus aujourd'hui. Force est de constater que pour l'instant la tendance elle est pas bonne.
Mais oubliez pas l'étape d'hier, là bien sûr on parle du chrono, mais hier quand Pogacar a attaqué, il y a que Vingegaard qui a essayé de suivre. Alors ok, c'était un effort punchy, mais Remco Evenepoel sur des Liège-Bastogne-Liège etc, il est là aussi, mais hier il n'arrivait pas à suivre, et ça sera, l'écart sera encore pire dans la haute montagne entre Poggi, Vingi et Remco Evenepoel. On l'a bien vu au Dauphiné que dans la haute montagne, dans les cols longs, il est quand même un ton en dessous le Belge.
Ouais. Donc on a bien compris, il n'y a plus d'adversaire pour Pogacar. On va évidemment revenir sur la contre-performance de Vingegaard. On va écouter aussi Tadej Pogacar qui lui vraiment se frisait les moustaches ce soir. Ce sera donc dans un instant dans la suite de l'After Tour. Et sachez également que toute cette semaine, l'After Tour et Jules, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâte, puisqu'à l'occasion de la grande boucle, vous pouvez tenter de remporter une carte cadeau de 50€ valable dans l'une de nos 400 boutiques et un t-shirt de la collection exclusive Jules, Tour de France 2025. Pour remporter vos cadeaux, Jules, envoyez le mot sprint. Comment s'écrit ça, Jérôme?
P-A-R-C.
Non, S-P-R-I-N-T. Non, c'est pas le même jeu. S-P-R-I-N-T. Tu troubles
Par contre, c'est toujours au même numéro?
Oui, 7, c'est 32,
le 7, 16. Alors, c'est le 7. 32-16.
Bon, ça c'est déjà pas mal.
Le 7-32-16.
Sprint au 7-32-16.
Jules, la marque de vêtements engagée et accessible, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâte sur RMC. Jules. Et en plus, vous êtes beau.
Et en plus, c'est à moi qu'il parle.
Il doit être un bug, ce pauvre Jules. Allez, on revient dans un instant en direct de Caen pour la suite de l'After Tour à l'issue de cette cinquième étape.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h28 sur RMC, l'intégrale Tour, c'était tout à l'heure. Là, nous sommes dans l'After Tour. Et puis, il y a aussi l'After Live, tout à l'heure, consacré évidemment à cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ce sera donc à partir de 20h. En attendant, nous sommes toujours en direct de Caen avec Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault pour revenir sur les enseignements de cette étape aujourd'hui remportée par Remco Evenepoel et la prise de pouvoir de Tadej Pogacar, qui est donc maillot jaune, maillot vert et maillot à poids de ce Tour de France. La grosse déception, elle est donc venue de la part de Jonas Vingegaard, que l'on pensait capable de s'accrocher à la route de Tadej Pogacar sur ce Tour de France, même si on avait quand même quelques doutes après le Dauphiné. Enfin, il y en a un qui avait aucun doute, c'était Jérôme Pinault. Ce soir, je pense qu'il avale et sa casquette et son chapeau et son bob. Vingegaard,
étape 5.
Peut-il... Oui, étape 5, d'accord. Mais est-ce que es toujours aussi sûr sur tes appuis que la semaine dernière? Jérôme, où est-ce que tu manges un peu ta casquette?
Je vacille un peu.
C'est bien de le reconnaître quand même. C'est bien.
Non, là, difficile de dire autrement quand même ce soir après la déculottée du jour. Maintenant, hier, j'ai été rassuré. Pogacar a attaqué. Vingegaard a été un petit peu distancé, mais a su revenir de suite. Bon, la force est de constater aujourd'hui qu'il y a pour l'instant un gros écart encore entre les deux garçons. Maintenant, pour nous. Pour le tour, pour le suspense, j'espère que le Danois va se rebiffer. Mais ce soir, le constat est clair. Il y a un homme au-dessus de la mêlée, et c'est Tadej Pogacar.
Il faut qu'il tente dès demain, après-demain.
Il ne faut pas attendre après Paris, parce que ce sera trop tard.
Certes.
Dès demain, créer des mouvements de course. Après, il faut créer la révolte. Peut-être ce soir, autour d'une bonne bière.
C'est tellement le truc de la
maison d'Isma. Que les Charlots qui font ça, les équipes françaises. Bah, dommage, mais ça peut-être marcher. En tout cas, il faut trouver quelque chose, parce que là, sinon, ça va être long, le tour pour Visma et The Bike.
Ouais, Jumbo, c'était avant. D'autant qu'ils ont pris un coup sur la tête, quand même. Toute la formation. Vingegaard n'est pas le seul. Jorgensen, même s'il devance Vingegaard, est quand même long à lui aussi. Van Aert est à la rue.
Ouais, pour Van Aert, il est là en... en touriste. Ils ne savent pas trop ce qu'il fait. Ils ont Eduardo Affini, hein, le champion d'Europe du chrono, qui a fait troisième, qui a été longtemps leader, mais c'est pas lui. Bon, lui, c'est un petit bonus pour eux. Mais je vais voler un petit peu au secours de mon ami Gégé. Je pense qu'aucun d'entre nous autour de la table s'imaginait Vingegaard prendre une déculottée comme ça aujourd'hui au chrono.
Non.
Pour moi, c'est
être
une vraie...
13e, non.
Ouais, déjà, faut arrêter, Pierre-Yves, au chrono de parler en place. Ça veut rien dire, les places. On regarde le temps sur un chrono. Non, c'est le but d'un chrono.
Mais
on lutte contre le temps.
Mais enfin,
parce que si tu fais 4e à 3 minutes, c'est bien, parce que tu étais 4e.
Non, mais ça veut dire qu'il y a 12 mecs qui sont au-dessus de lui.
On regarde. Oui, mais s'il était 13e à 10 secondes, bah, c'était un bon chrono, tu vois.
Oui,
donc la place, ça veut rien dire. Mais on s'attendait pas à ce qu'il ait une contre-performance comme ça.
D'autant qu'il y a un mois, Vingegaard avait mis 28 secondes à Pogacar sur le chrono du Dauphiné. Là, on part en seconde. Là, il prend 1,05. Ça veut dire qu'il y a plus d'une minute trente d'écart en un mois, quoi.
Là, c'est un argument pour ma théorie.
C'est-à-dire
il a peut-être eu un jour sans, comme l'a eu Tadej Pogacar sur le Dauphiné. Et que la fin.
Ah, tu penses qu'on
terminera...
va avoir le scénario inverse de ce qui s'est passé sur le Dauphiné?
Non,
tu crois vraiment
non,
ce que
c'est un peu
non,
comme
non.
quand Enco dit je vais reprendre 58 mais... secondes.
Non, mais en tout cas, il n'était pas au niveau de ses performances de ces derniers jours. C'est quand même une journée aujourd'hui à oublier pour lui. Il était en deçà de ce qu'il espérait. Je ne dis pas que logique, et c'est pas logique de perdre autant de temps. C'est-à-dire que s'il avait été au moins à son niveau normal, il aurait perdu du temps, mais moins que ça. Là, il a été en deçà. Il faudra trouver des explications du côté de Visma Liesebike. Il va falloir retrouver un plan. Mais nous, le doute qu'avec les databases, tous les scientifiques qu'ils ont dans cette équipe, parce qu'ils ont la science du vélo, ils vont nous expliquer et trouver une stratégie. C'est pas un problème.
Est-ce qu'il a régressé Vingegaard depuis le Dauphiné, Jérôme?
Je pense pas, j'espère pas. Non, on peut pas. Non, mais déjà les deux chronos, ils sont incomparables. Le profil n'était pas le même. On est à un mois d'écart, 3 semaines et demie d'écart. Non, il n'a pas régressé. Par contre, il a eu, à mon avis, un vrai jour sans aujourd'hui. Ça, c'est certain. Tu peux pas faire la performance qu'il a fait. Il y a vraiment eu un problème chez Visma Liesebike. Mais il a pas régressé, pas du tout. D'ailleurs, une des explications possibles, c'est qu'au Dauphiné, ce qui lui manquait, c'était les efforts punchy. 30 secondes, pouvoir suivre les attaques de Tadej Pogacar. Et le chrono, ça s'est plutôt bien passé. Donc peut-être quand le Dauphiné et le Tour, ils sont plutôt concentrés sur les efforts punchy de 30 secondes, une minute, et qu'ils ont délaissé un petit peu le chrono en prenant ça un peu pour acquis. Et peut-être que Tadej Pogacar, lui, a retravaillé un peu plus le chrono entre le Dauphiné et le Tour. Et ça peut jouer. Quand vous êtes dans l'entraînement, que vous avez beau avoir les meilleurs entraîneurs du monde, vous pouvez pas tout travailler en même temps. Ouais. Il faut regarder les faiblesses à l'heure actuelle et aller travailler dessus.
Poggi, il a pas perdu grand-chose en punchy non plus. Hein.
Non. Lui, il a rien perdu. Mais déjà, à la base, il est bien au-dessus du Danois dans cet effort-là. Donc, la seule explication que j'ai, c'est qu'ils se sont concentrés sur les efforts un peu plus explosifs, surtout pour cette première semaine du Tour, qu'ils ont délaissé un petit peu le chrono et qu'aujourd'hui, ils l'ont payé cash.
Bon, vous l'avez bien compris, chez Visma, ce soir, on fait grise mine. On va écouter Richard Plugue, le manager général de la formation, et Jonas Vingegaard, traduction assurée par Pierre-Yves Leroux, demain de maître, s'il vous plaît.
On va se partager le travail.
Non, j'ai pas d'explication. Avant le chrono, tout était bien. Il n'y avait pas de problème. On n'a pas échangé encore. Il y a eu 8 secondes derrière Remco. Juste perdu du temps. Sur un chrono, on va en parler. J'avais pas les bonnes jambes aujourd'hui.
My legs were not feeling so good, so
fonctionnait pas bien aujourd'hui.
Matching my legs. Yeah, I mean, I was fighting my bike and my legs today, so I didn't have
combattu contre mes jambes aujourd'hui.
Et mon vélo. I still believe in
le tour est long.
In our plan and still believe that.
Continue à croire en moi et en notre plan. Mais il y a d'autres déclaration du côté de l'équipe, et notamment Grisha Niermann, qui est le directeur sportif, qui dit: j'ai pas d'explication, il a perdu du temps sur toute l'étape, je lui ai pas encore parlé, mais on attend plus. En revanche, il le dit clairement, on attend plus de Jonas. Il y a une grande déception du côté de l'équipe par rapport à ce qui a été produit aujourd'hui.
C'est 2 secondes au kilomètre hein, perdu sur Tadej Pogacar. C'est quand même gigantesque hein, sur un chrono comme ça, sachant qu'il y a des moments où c'était, il y avait des petites descentes, ok, fallait pédaler, mais là-dessus, tu perds pas 2 secondes au kilomètre ici. Donc ça veut dire qu'il en perdait bien plus sur les parties où fallait mettre de la puissance, où fallait être bien en position. J'ai pu le suivre, c'était flagrant. Il avait jamais la bonne vitesse. Il mettait un coup une vitesse trop dure. Tu sentais qu'il était trop en force, ça allait pas. Il remontait une dent, il tournait les jambes. Vous savez, c'est les cassettes là, elles sont étagées, eux ils sont en SRAM, donc la plus petite c'est 10. Après ils avaient 11, bah lui il lui fallait un 10,5 quoi, il aurait fallu une au milieu parce qu'il avait jamais la bonne, il sautait d'une à l'autre et ça c'est jamais bon signe quand, même quand t'es coureur, tu le sais, quand tu pars, si t'es bien posé sur ta machine et que ça va tout seul, t'es sur la bonne vitesse, tu réfléchis pas, tu regardes pas ton dérailleur, mais quand ça va pas et que tu commences à naviguer sur la cassette, là tu sais que tu vas passer une mauvaise étape.
Moi j'ai été un peu surpris, Jérôme, tu vas me dire ce que t'en penses, par le choix du matériel de Jonas Vingegaard avec un chrono avec beaucoup de vent latéral assez
la
fort.
Grande roue, c'est une connerie, j'y crois pas du tout.
La roue haute sur si haute pour un mec qui n'est pas le plus puissant du peloton, on le rappelle, Jonas Vingegaard a fait le choix d'une roue de 80 de haut, 80 mm, alors que pour les autres c'est plutôt entre 45 et 60. Pour Remco Evenepoel c'est une 52 et ça pour le coup ça m'a beaucoup étonné de voir le Danois qui n'est pas le plus puissant du monde avoir le matériel le plus aéro et le plus énergivore.
C'est ça. Surtout avec le vent qu'il y avait aujourd'hui. Quand plus ta roue est haute, c'est pas une roue pleine, bien sûr, comme ils ont derrière, mais une roue de 80, c'est pas loin, hein. C'est presque le même effet. Donc quand t'as le vent un peu latéral, bah tu dois te battre avec ton vélo pour essayer de le tenir droit. Et ça, c'est de l'énergie que tu perds. L'énergie que tu passes à essayer de tenir ton vélo, à le garder sur la route, c'est l'énergie que tu mets pas dans les pédales et dans le pédalier pour aller plus vite. Hein.
Franchement, messieurs, depuis un an, depuis cette chute dans le Tour du Pays Basque, on espère que Jonas Vingegaard retrouvera le talent qui était le sien et ce qui lui avait fait dominer Pogacar. On s'en rappelle, il y a 2 ans dans le Tour de France.
Ça, c'est un faux débat pour moi.
Est-ce qu'on va le retrouver un jour à ce niveau-là ou est-ce que c'est déjà derrière lui?
Mais moi, je pense qu'il est plus fort que quand il gagne ses 2 tours.
Donc, ça veut dire que Pogacar est 10 fois plus fort qu'avant.
C'est Pogacar qui était pas du tout à ce niveau-là quand il se fait battre les deux fois.
Il y a 2 ans, il se faisait pas battre, il prenait pas une minute
Mais Tadej Pogacar a énormément progressé.
Il y a 12 coureurs devant. Je sais bien qu'il ne faut pas s'occuper du temps, mais il y a 12 coureurs qui sont meilleurs.
Tadej Pogacar a énormément progressé. Pourquoi vous m'agressez? Il n'y a pas 12 coureurs devant Tadej Pogacar aujourd'hui.
Non, mais devant Jonas Vingegaard.
Tu penses que Vingegaard n'a pas régressé? Tu trouves qu'il est au même niveau qu'il y a 2 ans?
Je pense qu'il est plus fort. Tu dis qu'il est plus fort même.
Moi, je trouve qu'il est soit au même niveau, soit plus fort qu'avant. Il le dit lui-même. Ils ont les datas. Il dit je fais mes meilleures valeurs maintenant. On parle pas du chrono là, on parle d'une manière générale, le Tour de France l'année dernière.
Le chrono aujourd'hui, il va forcément lui répondre en data, ils vont analyser sa donnée et il va être en deçà de ses.
Mais il est pas moins fort que quand il gagne le Tour. Tadej Pogacar, je pense qu'il a gagné son premier Tour un peu trop facilement, il a cru que c'était un peu acquis, il est resté sur ses acquis la première fois, il prend une tôle, après il se casse le poignet, etc. On connaît toute l'histoire, là il était pas à 100% et là il a repris une tôle. Depuis, il a changé d'entraîneur, etc. C'est quand même plus le même coureur, Tadej Pogacar, que quand il gagne son premier Tour de France. Il est plus fort partout.
D'accord, mais moi je pense que Jonas Vingegaard est dans la bascule.
Pour moi,
là.
Vingegaard était déjà à
110%
quand il gagne.
J'écoute aussi ce que dit son épouse. Qui explique que son équipe lui en demande trop.
Je sais pas le prix. Alors, je sais pas ce qu'elle sous-entend. Est-ce que c'est psychologiquement, enfin mentalement, qu'il lui en demande trop après sa chute, fallait tout de suite reprendre. Mais moi, je trouve que Visma Liseberg, ils en demandent pas assez à Jonas Vingegaard. Le prix qu'il le paye et il fait 4 courses dans l'année. C'est pas beaucoup.
Tadej
Pogacar, il est très bien payé. Tadej Pogacar, il est très bien payé, mais il court de février à octobre.
Non, mais c'est surtout
il y a un bon retour sur la distance.
Bien sûr, désolé.
C'est surtout qu'il faut expliquer aux gens qui ont lu cette interview, il faut bien expliquer quelle est l'implication nécessaire et les sacrifices nécessaires pour être la femme du meilleur coureur du Tour.
Ah, bien sûr.
Il faut l'attendre toute ta vie. Mais c'est le prix à payer, ma grande. Sinon. Il faut dire à Jonas qu'il retourne vendre du Poiscaille au Danemark. Et pour le coup, on va changer la maison et les meubles. Et à un moment donné, il faut être juste en phase avec la réalité. Il n'y a pas de grand champion
sans sacrifice. Oui, mais est-ce que Jonas Vingegaard a encore envie de faire autant de sacrifices?
Autant de sacrifices, peut-être. Est-ce qu'il aime autant ce qu'il fait? Parce que vraiment, sa chute, ça a été un tournant, mais je pense plus mental que physique. Je suis sûr que si tu le mets dans le fameux test FTP, le test 20 minutes, dans une bosse, il n'est pas moins bon qu'avant que quand il gagne ses tours. Par contre, faut repartir de la maison. Il a peur maintenant dans le peloton. Il s'est dit, je me suis vu mourir.
Il a vu batailler
dans
les 4
premiers jours. Si tu penses comme ça, je veux dire, t'es déjà sur la fin, en fait. T'es déjà sur la fin. Et dans l'interview, sa femme dit, quand on a eu notre premier enfant, le compte à rebours pour l'arrêt de la carrière de Jonas Vingegaard a démarré.
On dit qu'un pilote de F1 ou qu'un descendeur de ski, une fois qu'il est papa, perd un pourcentage important.
On le dit pour les sprinteurs aussi.
Mais bien sûr. Mais par contre, cette interview, je me demande si c'est pas UAE qui l'ont mandaté, parce qu'elle est sortie pile au début du tour. La femme de Vingegaard a fracassé Wout van Aert depuis, mais plus un coup de pédale. Ça a dû mettre un sacré bazar chez Visma Lisobal.
Elle n'est pas sur le tour encore. Autant celle de Remco Evenepoel est bien arrivée.
On l'a vu, on la voit bien.
Ouais. Mais par contre, celle de Vingegaard n'est pas arrivée.
En tout cas, il y en a un qui évidemment aujourd'hui a dominé les débats, même s'il est battu pour la victoire d'étape. C'est donc Tadej Pogacar qui s'empare du maillot jaune au bout de 5 jours seulement, qui en plus est maillot vert, maillot à poids, et qui a peut-être déjà le
Il peut plus être maillot blanc.
Mais... Ah, il peut plus être maillot blanc, il est trop vieux. Mais en tout cas, c'est plutôt satisfaisant. On va écouter tout de suite Tadej Pogacar.
Yeah, I feel great to be back in yellow and.
Bah oui, je me sens bien de revenir en jaune. Happy with today's ride and, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ma conduite.
It's not necessary to have it right now, but always you can.
Je sais pas si c'est une bonne chose de l'avoir dès maintenant le maillot jaune. Non, on dit jamais non au jaune.
He did such a good time trial in Dauphiné and.
Je suis surpris. Il avait fait un bon Dauphiné. Jonas Vingegaard était fort.
I mean, today gain some time, and maybe he will.
Aujourd'hui, j'ai gagné un peu de temps.
Tomorrow or the next.
Mais peut-être qu'il va essayer d'en gagner demain. On verra. La bataille avec Jonas va peut-être même être un peu plus forte maintenant.
Maybe top 10.
Faut exclure personne du top 10. Donc il faut faire attention à tout le monde.
So
dans le classement.
And we know how Jonas is strong on the big
et on
mountains.
Sait comment Jonas est fort dans la haute montagne.
Finals we saw aussi dans les hectic stages with the team, so we need
dans
to
les
be
fins d'étape très punchy. Et il y a la stratégie d'équipe aussi, donc il faudra être très attentif. Voilà, c'est ce qui explique Tadej Pogacar, mais qui sait qu'il a fait un petit break quand même important.
En tout cas, on peut noter quelque chose. Il a répondu à ta question, Christophe. À aucun moment dans l'interview, il parle de Remco Evenepoel.
Oui, c'est vrai.
Son adversaire unique
reste Jonas.
C'est Jonas. Ouais. C'est tout.
Alors, ce maillot jaune est-il arrivé un peu trop tôt? Cinquième jour de course seulement? Ou alors ça se gère maintenant? On sait gérer ça chez UAE.
Bon, ils savent gérer ça. Puis s'ils trouvent que le maillot jaune est arrivé trop tôt, c'est pas compliqué de le laisser partir non plus. Hein.
Bien sûr, il suffit
de laisser une grande échappée, de pas rouler derrière. Malheureusement ou heureusement pour eux, je sais pas. C'est que demain, après-demain, il peut encore aller gagner l'étape. Tadej Pogacar, si ça arrive un peu groupé. Voilà, à voir la stratégie chez UAE. Ils ont les épaules assez solides pour le maintenir et le garder et le défendre jusqu'à Paris sans trop de problèmes. Le tour est encore long, mais ils ont ce qu'il faut en magasin pour le conserver.
On va écouter Mauro Gianetti, donc le manager de la formation UAE, à ce propos, donc sur ce maillot jaune qui arrive très tôt dans ce Tour de France.
Ça change un peu parce qu'on a plus de responsabilités, quoique, bon, même sans le maillot, c'était à nous de contrôler la course parce que c'était le favori. Donc ça change un peu, mais pas grand-chose. On a une bonne équipe, on a une équipe soudée, tout le monde est concentré pour Tadej et tout le monde veut le mieux pour Tadej. Donc on va gérer jour par jour. Il y aura beaucoup de pièges, il y aura beaucoup d'attaques. Je m'attends que Vingegaard il va essayer de récupérer son temps, lui et son équipe. Donc il faudra rester beaucoup plus concentré.
Restez concentré, nous dit Mauro Gianetti. Donc a priori demain et après-demain, ils défendront ce maillot jaune, à moins qu'une échappée au long cours ne se déclenche.
C'est pas impossible. Hein. Il y a déjà pas mal d'écart. Hein. Il y a déjà pas mal d'écart. Et si on reprend les arrivées un peu punchy à Boulogne par exemple, bien sûr Visma Lisebike vont pas s'amuser à aller rouler. Et derrière, on a du Romain Grégoire, du Julien Alaphilippe, du Oscar Henley, du Aurélien Paré-Pin. Eux, ils sont déjà loin. Pourquoi pas se glisser dans une échappée?
Je pense qu'on va s'amuser en début d'étape demain parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont y penser en se disant on a peut-être une chance et ça va batailler, je pense.
Eh bien, on va en parler dans un instant de cette étape de demain, cette sixième étape au départ de Bayard.
Des Français, on parlera un peu des Français.
Bien sûr qu'on en parle
dans
un instant.
Ils ont été bons aujourd'hui.
Les Français, super bons. Quatrième et cinquième dans un chrono.
Je vais cherché.
Si, quand même. D'accord. Bon, c'était il y a longtemps alors. Allez, on revient dans un instant dans l'After Tour en direct de Caen. À tout de suite.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
La dernière ligne droite de l'After Tour ce soir en direct de Caen à l'issue de la cinquième étape. Ce chrono remporté donc par Remco Evenepoel, le champion du monde et champion olympique qui s'impose devant Tadej Pogacar. Pogacar qui récupère le maillot jaune dès la cinquième étape et qui récupère également le maillot vert. Il avait déjà le maillot à poids sur les épaules. Donc tout va bien pour l'ami Poggi. Tout va bien également pour les Français. Pour les Français dans ce chrono qui nous ont régalé. On rappelle donc la performance de Bruno Armirail, champion de France et quatrième de l'étape aujourd'hui, et celle de son vice-champion il y a quelques jours en Vendée, Kevin Vauclin, qui se classe cinquième et qui du coup monte sur la troisième marche du podium de ce Tour de France. Quatrième et cinquième d'une grande étape de contre-la-montre du Tour de France. J'ai pas souvenir de Français aussi performants.
Écoute, il a fallu que je plonge dans les archives pour retrouver ça, parce que c'est vrai que moi non plus ça me rappelait pas forcément quelque chose, un top 5 de deux Français. Alors en 2023, Passy Combloux, on avait eu Cavagna 5e et Gaudu 10e. Donc c'était deux top 10 déjà. On a eu Cancan, il y a eu Popo. Vous vous souvenez de Popo? C'était en 2019. Alaphilippe 1er et Pinot 7e. Après, il faut vraiment redescendre.
Ah, c'était un chrono en montée. Hein.
Tout à fait.
Vallonné, joli,
autour de Pau. De temps en temps, on avait un Français qui se classait quand même dans le top 10. 2016, Jérôme Coppel, quatrième à la caverne de Pont d'Arc. Quand même.
Allez. Il était seul au monde à l'époque.
Ouais, et il faut vraiment remonter très très loin pour retrouver deux Français.
Que t'as fait du vélo, moi. Pareil,
deux Français dans le top 5. 7 juillet 2001, il y a 24 ans, Christophe Moreau, qui avait remporté le prologue à Dunkerque sur 8 km 200, et Florent Brard s'était classé 5e.
Tu parles de deux Français, parce que il me semble que Didier Roux en 2001 fait 4e du dernier concours.
Oui, tout à fait, c'est bon, mais il était tout seul, il n'y avait pas d'autres Français. Et ça, c'est un prologue. Et puis en 2000, on avait eu Christophe Moreau qui avait fait 3 et Laurent Jalabert 6e. Armstrong était premier, mais avait été déclassé. Donc ça compte comme deux top 5. D'ailleurs, sur le prologue de 2001, Armstrong est là aussi. Donc Florent Brard, en fait, avait fait 4. Ouais. Voilà.
Bon, est-ce que vous êtes surpris, ébloui par la performance d'ensemble de nos Français, les deux en tous les cas, Jérôme?
Ni surpris ni ébloui. Hein, on en a parlé au début quand j'étais sur la moto derrière Bruno Armirail. Je pense que autour de la cinquième place, c'est leur place aux Français. Là, on avait dit, il n'y a pas sur ce Tour de France de grands spécialistes du chrono hormis Remco Evenepoel. Oui, Tadej Pogacar, normalement Jonas Vingegaard, etc. sont très forts.
Il y avait Ghana et Bisseguer qui
a fini un spécialiste aussi, il est devant, mais sinon les autres ils étaient pas plus forts sur le papier que Bruno Armirail et Kevin Vauclin. Donc non, je suis pas surpris, et la preuve, alors j'avais dit Bruno Armirail plutôt autour de la 7e place tout à l'heure pendant le direct. Voilà, si Vingegaard, Jorgensen passe pas au travers, bah voilà, c'est à peu près la place, mais si avec des si. Donc non, je suis pas surpris. Voilà, et Kevin Vauclin, il est quand même sur son petit nuage depuis un bon petit moment. Le Tour de Suisse, le championnat de France, etc. Il marche très fort. Il y avait des pancartes partout au bord de la route. Kevin Vauclin, des maillots blancs et tout. Donc ça donne un petit supplément d'âme. Donc sans surprise de les voir si haut placés.
Et on va l'écouter, Kevin Vauclin, qui nous régale depuis le début de ce Tour de France. Il est troisième ce soir au classement général après sa cinquième place aujourd'hui, même s'il a perdu le maillot blanc qu'il a dû rendre à Remco Evenepoel. Kevin Vauclin.
Je suis content de mon chrono. Je pense que j'ai bien géré. J'étais dans mes zones. Et puis j'ai profité du public, simplement.
C'est une super performance quand même, tu fais un super chrono.
Ouais, voilà, comme j'avais dit, si je pouvais faire aussi mal que l'année dernière, je pense que la case est cochée, donc je suis vraiment content. À des moments, je savais pas si je pouvais passer sur la route, tellement il y avait de monde, mais non, c'était juste incroyable, je sentais pas les jambes. Ça me poussait à chaque fois, les relances, ça c'était 10 watts de plus, je roulais toujours plus vite, c'était un public fou. Franchement, vivre ça, c'est juste incroyable.
Et demain, pareil?
Demain, pareil, voilà, je vais voir comment je récupère. Là, je suis lessivé, donc on verra.
Il est lessivé, donc on verra. Alors, c'est bien, troisième au classement général, c'est magnifique. On rêve en grand pour Kevin Vauclin, mais on rêvait surtout, et lui aussi, de victoire d'étape. En étant classé troisième au général, est-ce que demain, sur ces terres normandes, il peut avoir une chance d'aller chercher l'étape, ou alors c'est déjà râpé?
Ah bah, s'il peut aller chercher l'étape demain, ce sera qui sera le plus fort
à la pédale
dans le final, et que le final sera pour la gagne dans le groupe où il se trouvera, donc dans le peloton, parce que la marge de manœuvre, elle est finalement trop courte maintenant. Ils sont
un peu les fesses entre deux chaises, si on veut rester poli, chez Arkea avec Kevin Vauclin, parce que évidemment que demain c'est niette. Vauclin n'ira pas dans l'échappée, il peut pas. Donc il peut gagner l'étape demain, mais à condition que ça arrive groupé. Donc là, il faut qu'il joue avec les autres équipes. Et par contre, lundi, vers le Puy de Sancy, ça peut être une étape qui convienne à Kevin Vauclin, mais je ne pense pas que du côté d'Arkea BNB Hotel, on dise à Kevin, maintenant tu te relèves sur une étape. Il est là, il va profiter de...
Oui, maintenant il est obligé de jouer le général.
En tout cas, jusqu'à la montagne. Il va rester à sa place jusqu'à ce que le physique lui dise stop et qu'il ait un coup d'éclat. Mais pour le moment, difficile d'imaginer Kevin prendre une échappée et qu'on le laisse faire. Disons que s'il avait été à 2 minutes, peut-être que le demain, il pouvait et la fois viser l'étape et peut-être même endosser le maillot jaune. Mais là, 51 secondes, c'est inimaginable, c'est pas possible.
Jérôme. Non, je suis d'accord avec Jérôme, c'est impossible. Après, il sera bien sûr, si c'est un groupe de favoris qui arrive pour la victoire d'étape demain, il sera là. Est-ce qu'il va être le premier surveillé par Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel? À voir, est-ce qu'ils vont pas se regarder un petit peu et éventuellement il prend quelques secondes et ça peut aller au bout? J'y crois sans trop y croire, parce que rappelez-vous, à Boulogne, dès qu'il a bougé, tout le monde était dans sa roue déjà à Boulogne. Donc maintenant qu'il est troisième au classement général à 59 secondes du maillot jaune, pas sûr qu'on le laisse bouger. Tadej Pogacar va pas s'occuper de Kevin Vauclin, mais Remco Evenepoel et ceux un peu derrière, peut-être. Voilà, là c'est le désavantage d'être haut placé. Oui, oui. Mais bon, en même temps, il peut encore y croire. Et puis, bon, on va pas lui demander de freiner. Comme disait Jérôme, à un moment, peut-être que son physique va le lâcher. Et là, ça va remettre tout le monde à sa place.
En revanche, est-ce qu'un Aurélien Pareil Peintre peut sortir?
Oui.
Là, ça peut être pas mal. Il est à 3,22, donc ça aurait été, c'est jouable. On n'a pas trop de temps, je crois.
Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, malheureusement.
Dès qu'on parle des Français,
même
voilà.
Pour évoquer l'étape de demain qui sera sublime, dommage, entre Bayeux et Vire, avec, ça va pas arrêter de monter et de descendre avec des côtes de 3e et 4e catégorie. Ça va être une étape énorme, c'est sans doute.
On va juste citer la petite phrase de Christian Prudhomme: ça doit être une des étapes plates les plus dures de l'histoire du Tour de France. 3500 mètres de dénivelé positif.
Certains disent que ça ressemble à Liège-Bastogne-Liège, tout
mini
simplement.
Thierry Gouvenou, l'auteur, compositeur de cette étape,
il est
en
chez lui,
salive d'avance.
Il est à la maison. Merci les garçons, on file à Wimbledon, Djokovic dans la troisième manche de son quart de finale, Eric.
Oui, Djokovic qui mène 2-7-1, il vient de gagner le troisième set, Christophe, à l'arrache, 7 jeux à 5 face à Flavio Cobolli, qui le fait bien transpirer, mais il y a encore un effort à produire, donc à fournir pour le Serbe, s'il veut rejoindre Yannick Sinner. Donc 2-7-1 pour Novak Djokovic, on est au début du quatrième.
Merci Eric. 19h56, vous avez rendez-vous avec Nicolas Jamain dans un instant, l'After Live, avec évidemment ce match entre le PSG et le Real. Sachez que Kylian Mbappé sera là, il est titulaire face aux stars du PSG, à suivre dans un instant. Nous on se retrouve demain 14h pour la 6ème étape du Tour. À demain, ciao.
RMC, l'After Tour.